et que les justes, les bons, eh bien, soient douloureusement affligés. Et voyez, c'est cette énigme, cette double énigme qui semble contraire à la justice divine qui est le sujet de ce psaume. Pourquoi les méchants échappent-ils et pourquoi les bons, les justes sont-ils si souvent frappés? Et celui qui se livre à cette réflexion, eh bien, il s'agit de ce personnage qui est en tête de psaume qui s'appelait Asaph. Qui était Asaph? Lorsque nous lisons dans le premier livre des Chroniques, je vous invite à le faire lorsque vous serez de retour chez vous, au chapitre 25, nous apprenons que Asaph était un des chefs de chorale, de la chorale qui avait été instituée par le roi David pour célébrer le culte de l'Éternel. C'était un homme assez exceptionnel. D'une part, c'était un chantre, un habile musicien, vous voyez, quelqu'un qui avait des compétences, un talent, une capacité aussi de leader, comme on dit aujourd'hui, de diriger, de conduire, d'organiser cette magnifique chorale qui célébrait le louange du Seigneur. Et puis, en plus de tout, c'était un homme de l'esprit, parce que le premier livre des Chroniques, au chapitre 25, donc, nous dit que Asaph, il prophétisait, voyez. Non seulement il y avait la dextérité, il y avait le talent naturel, il y avait les compétences techniques, musicales, vocales, mais par-dessus tout cela, et c'est ce qu'il y a finalement le plus important, il y avait l'action et l'onction du Saint-Esprit. C'était un homme de Dieu authentique. Et en cela, c'est une petite discrétion que je fais par rapport au thème de notre réflexion ce matin. En cela, c'est un exemple, vous voyez. Tous ceux qui s'investissent dans l'Église, dans le domaine musical, doivent s'efforcer avec la grâce de Dieu d'associer ces deux éléments. La compétence technique, hein, quand on chante, il vaut mieux chanter juste. Quand on joue, il vaut mieux chanter, il vaut mieux jouer juste que faux. Mais aussi avec, par-dessus la compétence technique, la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque les deux sont rassemblés, alors mes amis, eh bien, il y a une grande bénédiction. Et donc, Asaph, cet homme de Dieu, cet homme inspiré, ce musicien, ce chanteur, mais aussi ce prophète, a le courage de nous ouvrir son cœur. Voilà. Et de nous faire part du combat intérieur qui fut le sien et la façon dont, par la grâce de Dieu, il a pu sortir de ce combat intérieur, il a pu en sortir victorieux. Et reconnaissons que nous avons tous nos combats intérieurs, oui ou non, hein? Nous avons tous nos luttes morales, nos luttes spirituelles, et parfois, si nous affichons une certaine façade, tout va bien, ça baigne dans l'huile, c'est formidable. À l'intérieur, eh bien, il y a parfois des conflits avec nous-mêmes. Nous sommes un petit peu en guerre avec notre propre intérieur. Alors, le psaume commence de la manière suivante, vous l'avez lu avec moi, hein. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est une affirmation théologique. C'est l'expression de la foi. Voyons, quand même, quand on est des croyants, d'authentiques croyants, on ne peut pas ne pas affirmer que Dieu est bon. Sinon, tout se met par terre et ça tient plus debout. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, dit Asaph, toutefois. Eh oui, parce que c'est vrai qu'il y a des éléments dans la vie ordinaire, des éléments troublants qui semblent venir contredire cette confession de foi. Nous disons que Dieu est bon, et c'est vrai. Nous disons que sa grâce est sur son peuple, alléluia. Nous disons qu'il s'applique, n'est-ce pas, à faire du bien à ceux qui ont le cœur pur. Mais toutefois, eh bien, il y a des moments où la bonté de Dieu, appelons les choses par leur nom, semble ne pas se manifester comme nous le souhaiterions. Oui ou non? C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est ainsi. Oui, il y a des éléments troublants qui semblent venir contredire la confession de foi. Et cette contradiction, nous verrons qu'elle n'est qu'apparente, a amené Asaph, pourtant un homme de Dieu, à deux doigts de la dégringolade spirituelle, de la chute, de la déchéance morale et spirituelle. Il le dit. Mon pied est allé fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. J'étais à deux doigts de la catastrophe. J'étais à deux doigts de finalement renier ma foi, de tourner le dos quelque part à ce Dieu que je prétendais servir jusque-là. Comme quoi, voyez, comme quoi. Elle s'applique toujours cette parole qui dit que celui qui croit de debout, qu'il prenne garde de tomber. Et c'est vrai que nous sommes tous logés à la même enseigne. Quel que soit notre niveau de responsabilité, voyez, dans l'Église ou dans le service de Dieu, je le répète, Asaph n'était pas n'importe qui. Quel que soit nos années de conversion, quelle que soit la longueur déjà de notre marche avec le Seigneur, nous devons de veiller afin de ne jamais fléchir. Heureusement que la grâce de Dieu ne fait jamais défaut. Hein? Alléluia. La grâce de Dieu ne fait jamais défaut. Sans ça, vous savez, sans la grâce de Dieu, le pire est possible pour chacun. Le pire est possible pour chacun. Nous dépendons tout entier de la grâce de Dieu. Et nous voulons croire que cette grâce, elle se manifestera au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Certes, la grâce de Dieu, elle a été au départ de notre vie chrétienne. L'Écriture nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais cette grâce de Dieu, elle ne s'est pas simplement manifestée dans les premiers temps de notre conversion, lors de notre rencontre initiale avec le Seigneur, mais elle se renouvelle de jour en jour. Alléluia! J'ai besoin de sa grâce, jour après jour. J'ai besoin de sa grâce. Alors ce qui étonne Asaph, et ce qui peut parfois nous étonner à nous aussi, c'est le bonheur des méchants. Des méchants. De ceux qui vivent sans Dieu, loin de Dieu, et loin de tout principe moral tiré de la parole de Dieu. Et on ne va pas entrer dans tous les détails, mais enfin Asaph fait un petit peu le répertoire de ce qui constitue la vie de ces méchants. Ils ont une santé insolente, l'épreuve semble les épargner, ils sont pleins d'orgueil, de morgue, ils sont hautains, ils font preuve de violence, ils se rendent coupables d'injustice, d'oppression, ils défient Dieu au travers de leurs propos, de leurs paroles, et malgré tout, ils connaissent la réussite, le succès, la richesse, tout va bien. Malgré ces faits qui sont en désaccord avec ce que Dieu veut, malgré leur vie tordue, malgré leur perversion morale, ils échappent, semble-t-il, au malheur, et il semble que, outrageusement, tout leur sourit. Alors c'est à ne plus rien y comprendre, n'est-ce pas? Et la réflexion en tirée, qui semblerait logique, c'est de dire,
c'est pas juste ça.
Moi je voudrais que le méchant, tchac, il ramasse quoi, hein, qu'il soit justement puni, qu'il soit justement châtié. Et Asaph d'en conclure, mais alors ça sert à rien de croire en Dieu, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est donc en vain, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà. Ça ne sert à rien alors de croire en Dieu, c'est ce qu'il dit. De s'efforcer de vivre une vie droite, puisque moi qui suis un croyant, et autant que faire se peut, un croyant fidèle, un croyant authentique, chaque jour, je suis accablé par toutes sortes de coups durs. Excusez-moi, c'est un petit peu trivial, mais j'en prends plein la tête, quoi. Et pourtant, je suis un croyant. Et pourtant, je me réclame du nom du Seigneur. Et pourtant, je m'efforce de marcher droit. Et pourtant, je m'efforce de lui plaire. Pourtant, je m'efforce de faire sa volonté. Et pourtant, je me tiens près de sa parole. Pourtant, je me soucie de la crainte de Dieu et de lui obéir et de le servir et de l'aimer en dépit de tout ça. Eh bien, le malheur, la souffrance, les épreuves m'accablent. Je vois à côté de moi quelqu'un qui vit sans foi ni loi et tout lui réussit. Ça sert donc à rien. Ça sert donc à rien. Pourtant, dit Asaph, je ne veux pas malgré tout me laisser aller à imiter ces méchants-là. Hein? Si je disais je veux parler comme eux, hein? Verset 15, voici, je trahirais la race de tes enfants. Je veux malgré tout ne pas me laisser aller à imiter ces méchants-là. Mais c'est tout de même difficile à comprendre, admettre, à accepter que ceux qui vivent sans Dieu, sans foi, ni loi, tout le réussit, et moi qui m'efforce de te plaire, eh bien je suis si souvent frappé par les épreuves. Et vous savez, c'était la question d'Asaph, je suis sûr que cette question-là, on se l'est posée un jour ou l'autre. Certainement, certainement que chacun de nous, à un moment ou un autre, et peut-être certains en sont là particulièrement ce matin, nous nous sommes posés ce genre de questions, et c'est pourquoi n'en plus finir. Et Asaph nous dit, eh bien, la difficulté fut grande à mes yeux. Eh ouais, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que là, j'ai pris garde au sort final des méchants. Alors, qu'est-ce que c'est le sanctuaire ? Le sanctuaire, c'est le lieu saint. Et le lieu saint, c'est là où Dieu se tient. Alors, il y a le sanctuaire du ciel, où Dieu se tient par excellence. Le trône de gloire, nous y serons un jour, alléluia. Pour Asaph, eh ben, c'était le temple, là, le lieu consacré au culte de l'Éternel. C'était le sanctuaire. Pour nous, c'est quoi le sanctuaire ? C'est l'Église, d'une certaine manière. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Non, l'Église qui est constituée par le rassemblement des croyants, des authentiques disciples de Jésus. L'Épître aux Hébreux, si ma mémoire est exacte, nous dit « Sa maison, c'est nous ». L'Épître aux Éphésiens nous dit que l'Église, c'est une habitation de Dieu par l'Esprit. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans un sanctuaire.
Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit a parlé. Vous avez par l'Esprit adoré le Seigneur. Avec le secours de l'Esprit, la parole est prêchée. Sous le regard de Dieu, nous avons commémoré le sacrifice de Jésus. Cet espace-temps constitue le sanctuaire. La présence de Dieu est là. Nous voudrions qu'elle soit tellement plus palpable, plus intense, plus profonde. Je soupire, et certainement vous aussi, après ces temps nouveaux où l'onction là, de Dieu nous soit accordée avec abondance, où nous vivions des temps de rafraîchissement. Mais quand même, Dieu est là. C'est ici le sanctuaire. Mais si le sanctuaire, quelque part, c'est l'Église, chacun de nous, nous devons avoir notre sanctuaire intérieur, personnel. Jésus appelle ça le lieu secret. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre. » Une autre traduction dit « Va dans la pièce la plus reculée de la maison. Ferme la porte derrière toi. » Une autre traduction dit « Verrouille la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » C'est le sanctuaire, vous comprenez ? Alors ça peut être dans la chambre, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la salle à manger ou ailleurs. Je connaissais un frère quand il était au service militaire. Excusez-moi, l'endroit où il était le plus tranquille pour lire la Bible et pour prier, c'était les water, hein.
parce qu'en dehors de ça, il y avait du monde partout. Alors, ouais, il s'enfermait là-dedans et il priait le Seigneur et il lisait sa Bible. Peu importe l'endroit, mais il faut que quotidiennement, il y ait ces moments où nous pouvons ouvrir largement notre cœur au Seigneur. Eh, frères et sœurs, chers amis, si vous n'avez pas ça, vous passez à côté de quelque chose de grand, à côté de quelque chose de vital. Si votre vie spirituelle se limite au culte du dimanche matin entre 10 et midi, vous loupez quelque chose et vous êtes même en danger. Il faut que dans chacune de nos vies, il y ait ce sanctuaire intérieur. Et là, dans ce sanctuaire intérieur, non seulement on peut tout dire ce que l'on a sur le cœur, alléluia, on peut déverser son cœur, on peut répandre son cœur, mais également dans ce sanctuaire intérieur, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous ouvrir l'esprit, Dieu peut débloquer nos méninges, Dieu peut renouveler, illuminer notre intelligence spirituelle, il peut éclairer les yeux de notre cœur, pour que nous apprenions à considérer les choses comme lui les considère. Que nous apprenions à considérer les choses selon la perspective divine et non plus selon la perspective et les pensées humaines. Et c'est ce qui s'est passé pour Ésaü. La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants, voyez. Il y avait comme une vision obscurcie, là. Il était omnibilé par ces espèces d'énergumènes, ces mécréants qui vivaient sans Dieu, donc, et à qui tout réussissait. Et il ne voyait pas la suite des choses. Et Dieu lui a appris à prendre garde au sort final des méchants. Oui, dira-t-il, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine. En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Seigneur, comme un songe au réveil, à ton réveil, tu repousses leur image. Autrement dit, la réussite, le succès du méchant, le fait qu'il semble être épargné, tout cela n'est qu'éphémère. Tout cela n'est que passager, apparent et illusoire. Vous savez, il faut toujours tout apprécier à la mesure de l'éternité. À la mesure de l'éternité. Finalement, même s'il y a des jours qui semblent très longs dans la vie, c'est vrai, hein, il y a des jours, quand c'est dur, quand on souffre, quand on a mal physiquement ou moralement, waouh, ça semble très long. Mais finalement, vous savez, la vie est brève. C'est un lieu commun de dire ça, hein. Mais ça passe si vite. Vous voyez, moi je fais le décompte là. Il me semble que c'est hier, avant-hier quoi, que j'ai fait mes premiers pas dans le service de Dieu. Je me souviens avec précision de ce premier jour, de cette première réunion. Je peux vous dire quels étaient les prédicateurs qui étaient là. Et plusieurs dizaines d'années se sont écoulées. On me dit, mais... déjà, j'aurais voulu quelque part peut-être parfois essayer d'arrêter la roue du temps. Mais non, elle tourne, et il me semble qu'elle tourne de plus en plus vite. Alors c'est pour ça que le succès des méchants, oui d'accord, mais qui n'est éphémère, passager, illusoire. Pour les méchants donc, ceux qui auront persévéré dans le mal jusqu'au bout, ceux qui auront négligé, refusé de faire la paix avec Dieu, de se repentir, quoi, de se convertir, de saisir le pardon que pourtant Dieu leur offre, pour eux, l'éternité consistera à être éloigné, séparé de Dieu pour toujours, définitivement. Ainsi, ils recevront ce qu'ont mérité leurs œuvres. Et nous pourrons constater que la justice divine, elle s'appliquera finalement. Elle s'appliquera finalement. La leçon qu'en tire Asaph pour lui-même, c'est que son aigreur, son irritation, son amertume envers Dieu était stupide. Il le dira. Lorsque mon cœur, verset 21, s'aigrissait, que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard, comme les bêtes. Stupide, totalement injustifié, et donc coupable. Et sans peut-être que nous ayons parfois voulu le reconnaître, est-ce qu'il ne nous est pas arrivé des fois d'être en colère contre Dieu? Oh frère, mais si, ça s'est produit. On n'a peut-être pas osé proférer à haute voix ce qui bouillait dans notre cœur. Mais ça y était, tout comme Asaph. Ben il dit voilà, c'était sot. Lorsque mon cœur s'aigrissait, lorsque je me sentais percé dans mes entrailles, l'amertume, l'aigreur, j'étais stupide et sans intelligence. Et puis, en contrepartie, Asaph mesure le privilège qui est le sien, privilège de croyant, privilège de l'enfant de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 23. « Cependant, je suis toujours avec toi. » Alléluia! Ça, c'est ma richesse. La présence de Dieu dans ma vie, c'est mon trésor. Et nous savons bien, au fond, que tout peut nous être ravi, mais pas ça. Paul dira dans l'Épître aux Romains que rien ni personne, pas même le diable, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre trésor, c'est notre richesse, c'est notre gloire, c'est notre privilège, c'est notre avantage. Alors, Asaph définit là trois étapes de la vie du croyant. Regardez ce qu'il dit au verset 23. « Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Ça, ce sont les trois étapes de la vie du croyant, de l'enfant de Dieu, du disciple de Jésus. Tu m'as saisi la main droite. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, dira ceci, « J'ai été saisi par Jésus-Christ. » J'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà, sur le chemin de Damas, rappelez-vous, alors que cet homme fou furieux, rempli de haine, s'en allait persécuter les croyants, Jésus l'a arrêté, l'a saisi, l'a empoigné et l'a sorti de cet état de rébellion, de perdition pour le mettre sur le chemin du salut. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a fait à l'égard de Paul dans notre circonstance? Il l'a fait à l'égard de nous-mêmes. Il nous a saisis par la main. Vous savez, lorsqu'on a un enfant tout petit, hein, les papas et les mamans comprennent de quoi je veux parler. Vous voyez votre gosse qui s'apprête à traverser la rue alors qu'une voiture déboule. Vous le saisissez par la main, c'est pas vrai? Vous ne lui dites pas, oh mon petit, attention à toi. Non, vous agissez vigoureusement, vous le saisissez par la main et vous l'arrachez à un danger immédiat. Peut-être après vous lui expliquez le tarif. Hein, tu as vu ce que tu as risqué? Ben, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Alors que nous étions en danger de mort spirituelle, il nous a saisis par la main. Alléluia. Des fois, ça a été un peu rude, hein, la façon dont Dieu nous a saisis. Des fois, il a fallu un coup dur pour que nous comprenions que nous avions besoin de lui. Mais il nous a saisis par la main. Il nous a saisis. Il ne nous a pas lâchés. Il ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas dit, allez, qu'importe, débrouille-toi, vis ta vie. Non, il nous a saisis. C'était la preuve de son amour. Et là, Jésus nous saisissant, nous avons compris qu'il nous avait aimés au point de donner sa vie sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, que notre âme reçoive ce don merveilleux de la vie éternelle. Nous avons cru véritablement pour la première fois de notre vie. Nous nous sommes repentis, humiliés, nous nous sommes convertis. Alléluia, il nous a saisis. Gloire à Dieu. Et puis, deuxième étape, tu me conduiras
par ton conseil.
Ça, c'est la marche chrétienne. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou plus pour certains. C'est la vie chrétienne. Dieu nous conduit tout au long de notre vie. Vous voyez, il y a un psaume là, le psaume 32. On a médité sur ça avec les jeunes il y a quelques samedis. Le Seigneur dit ceci au verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein, un mort, dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Le Seigneur veut nous guider tout au long de notre vie. Il veut nous guider par sa parole. Il veut nous guider par son esprit. Et il veut nous guider par les circonstances de la vie. Ça s'appelle la providence divine. Mais pour qu'il nous guide, il faut que nous soyons dociles. Que nous ne soyons pas comme des mulets, têtus, bornés, mais au contraire dociles, pour qu'ils puissent nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur. Reconnaissons-le. Toutes les fois où nous avons écouté la voix du Seigneur, toutes les fois où nous nous en sommes tenus à ce que disait sa parole, toutes les fois où nous avons... N'est-ce pas, incliner nos cœurs favorablement pour nous soumettre à sa volonté, nous nous en sommes trouvés bien. Et toutes les fois où nous avons fait les fortes têtes, ça m'est arrivé, on n'a pas perdu notre salut, mais nous en avons subi les conséquences fâcheuses. Je te conseillerai. Tu m'as saisi la main droite, puis tu me conduiras par ton conseil. Et troisième étape, tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Amen. Tu me recevras dans la gloire. L'objectif quand même, hein, je ne sais pas si vous y pensez, moi j'y pense souvent, l'objectif c'est le ciel. Hein. Amen. L'objectif c'est d'aller au ciel. L'objectif suprême du croyant, c'est pas seulement de recevoir les bénédictions qu'il peut recevoir sur la terre. C'est vrai que ici-bas aussi Dieu nous bénit. Mais le but que je poursuis dans ma marche avec le Seigneur, c'est de le rejoindre un jour dans le ciel. Tu me recevras dans la gloire. Voir Jésus face à face, dit le cantique. Voir Jésus dans sa bonté. Quelle grâce, quelle gloire, n'est-ce pas? C'est là notre privilège. C'est là notre espérance. En attendant, dit le psalmiste, pour revenir à ce fameux psaume 73, il dit ceci sur la terre, eh bien, je ne veux prendre plaisir qu'en toi. Hein? C'est ce qu'il déclare, voilà, dans ce psaume 73, au verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Vous savez, la source du vrai bonheur, des vraies satisfactions, ne se trouve qu'en lui. Bien sûr, nous sommes attachés à nos êtres chers. L'un n'exclut pas l'autre. Cependant, l'amour pour Dieu est, en tout cas doit être un amour spécial. Un amour supérieur à toutes les autres affections, n'est-ce pas, sur la terre. Je ne prends plaisir qu'en toi. Le fondement de ma vie, l'objectif de ma vie, ce que je poursuis intensément, c'est pas une réussite purement terrestre, charnelle, mais mon plaisir, il est en toi. Seigneur, c'est avec toi que je veux demeurer. C'est pourquoi, dit le psalmiste en concluant, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours, j'aime ce toujours, le rocher de mon cœur et mon partage. Ça veut dire, quelles que soient les épreuves physiques qui m'accablent, ma chair, ou les épreuves morales, mon cœur, qui peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, mon refuge, ma forteresse, mon appui, mon secours. Car, dit Asaph, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles, et pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai certainement pas l'intention de l'abandonner. Mais je veux au contraire, Seigneur, te rester fidèlement attaché. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, au verset 39, nous dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Comment, c'est une énigme pour moi. Comment est-il possible d'avoir marché avec le Seigneur pendant des années, et puis ensuite, tout d'un coup, de s'arrêter et de retourner à notre misère passée? Je ne comprends pas. Notre misère naturelle, elle est grande. Mais Dieu est si bon, si patient. Et chaque fois que, humiliés, nous revenons à lui après avoir commis quelque erreur, il est prêt à nouveau à nous faire grâce. Alors nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Et la foi va de pair avec la persévérance, qui ont la foi pour sauver leur âme. Car lui, de son côté, ne nous abandonnera jamais. Pour moi, dit Asaph, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Notre Père,